Je voudrais au début, je voudrais vous poser une question. Bon, il n'y a plus d'enfants, c'est dramatique, mais il y en a des plus jeunes. Est-ce que vous aimez les histoires? Tu aimes les histoires? Tu aimes les histoires? Pour ceux qui aiment les histoires, levez la main. Et vous allez aimer la Bible. Parce que la manière dont Dieu a choisi de nous instruire, c'est souvent par des histoires. Alors, je n'ai pas donné les statistiques exactes parce que Joël est dans la pièce et j'ai peur. Bien que je les ai notées dans un coin, mais il y a le chapitre dans la Bible, 1189. Ah non, c'est l'Ancien Testament, pardon. Mon truc, ça, il y en a 900 et quelques.
929.
Ah, c'est ça. Et de livres où il y a de chapitres où il y a des histoires. C'est presque 400, 390 et quelques pour les choses. Non, excusez-moi, c'était une erreur de ma part. Donc on peut lire l'Ancien Testament. En fait. Qui c'est qui a lu récemment Ézéchiel? Il me semble, hein, c'est ce que j'avais cru comprendre. Est-ce que vous avez remarqué que dans Ézéchiel, il y a aussi des histoires? Comme des rêves, des histoires, etc. Bon, c'est pas facile. Et puis, en fait, oui, on trouve des histoires un peu partout. Et puis, le Seigneur nous donne ces histoires, l'Esprit de Dieu nous donne ces histoires, pas pour nous faire passer des soirées agréables. Je me souviens quand on faisait la lecture à la maison et qu'on arrivait à la fin d'un livre, on demandait aux filles, pardon, oui, aux enfants, mais vous savez, on est majoritairement féminin chez nous. Et avant que Luc-Étienne naisse, déjà, les suffrages allaient toujours pour Esther. Eh oui, c'est une histoire avec une princesse, avec un roi, etc. Mais ce n'est pas le livre le plus facile à comprendre, mais il est aussi utile dans la Bible. Alors on n'a pas toujours lu Esther. Il y a aussi Jonas. Si on veut. Et donc, Dieu nous instruit de cette manière-là. Parce que les histoires sont universelles. Quand vous écoutez une prédication, si tout d'un coup le prédicateur arrête son long monologue par une histoire, en général, ça réveille un tout petit peu. Donc c'est universel, ça s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, ça parle dans tous les temps. Et Dieu utilise cela, mais c'est pour nous instruire. C'est pour nous instruire et pour nous amener à nous connaître. Pour nous amener à le connaître. Et puis, c'est aussi une manière dont le Seigneur Jésus a instruit les siens, puisque quand il parle aux disciples d'Emmaüs ou aux disciples après, il prend toutes les Écritures pour raconter les choses qui le concernent. Alors, ces histoires vont nous amener à mieux connaître aussi le Seigneur Jésus. Et puis, on va lire ensemble d'abord un passage dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 10. Alors, au début du chapitre, il est question de l'histoire du peuple d'Israël avec tout ce qu'ils ont fait. Puis au verset 6, il est dit « Ces choses sont arrivées comme type de ce qui nous concerne. » Et ensuite, il y a toute une liste de choses « Afin que nous ne fassions pas comme ils ont fait. » Et puis au verset 11, toutes les choses leur arrivèrent comme type ou comme exemple ou comme image, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que la fin des siècles ont atteint. Un texte qui est entouré par toutes ces choses ont été écrites. En fait, elles ont été écrites pour nous. C'est pour nous avertir, c'est pour nous arrêter peut-être dans un mauvais chemin. Il y a un autre texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15. Au chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Or que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre instruction, pour nous encourager à persévérer, pour nous consoler aujourd'hui, pour réveiller notre espérance. Toutes ces choses du passé ont été écrites pour cela. Alors, je vous propose de, on va aller à travers plusieurs chapitres de l'Ancien Testament. Je suis désolé, on va lire pas mal. Hein. Mais dans un moment de l'histoire d'Israël, c'est à la fois un ravin profond, horrible. Et en même temps, c'est aussi un sommet merveilleux. Je ne sais pas si vous connectez un peu. Vous vous rappelez du veau d'or ? C'est pas terrible, hein ? Et puis l'histoire qui suit, la manière dont Moïse va agir et la réponse de Dieu. Alors on va essayer de suivre un peu ça. Peut-être se rappeler que le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte il n'y a pas longtemps. C'est à peu près, ça se passe ce moment-là, après le troisième, ou dans le troisième mois, ou après le troisième mois, enfin il y a une partie qui est après le départ. C'est pas vieux l'histoire. Ils sont délivrés, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu le pharaon détruit, ils ont suivi la nuée le jour, la flamme le soir, ils ont vu tout ça. Puis ils passent de l'autre côté, c'est Mara. Bon, il commence à murmurer. Il nous fait venir ici quoi pour mourir de faim? Puis c'est Élim, là on est bien, mais voilà que Dieu va les faire avancer un peu plus. C'est le désert. Et on n'a rien à manger. Est-ce que tu nous amènes là? On se souvient, c'était si bien avant en Égypte. Et puis le Seigneur va leur donner la manne. Et puis après, il va y avoir Réphidim avec le rocher qui est frappé, ainsi de suite. Et Dieu s'occupe d'eux. Et puis, ils vont arriver au chapitre 19, au désert de Sinaï. Et là, il y a une rencontre. Il va y avoir la montagne, il va y avoir les paroles de Dieu, ils vont voir des choses extraordinaires. Et ils ont dit, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et puis Dieu va leur donner le décalogue. Et puis, si on tourne un peu les pages, on arrive au chapitre 29. Et bon, je me suis trompé. Ça, c'est la fatigue. Hein. C'est le chapitre 19. Non, le chapitre 24, pardon. Au chapitre 24, ils vont aussi voir des choses extraordinaires. Ils vont apercevoir, verset 16, « La gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. » Le septième jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'assurance et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme le feu dévorant sur la montagne, sur le sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. Vous êtes allé en Israël? Vous êtes allé sur le mont Sinaï, ce qu'on suppose être le mont Sinaï? C'est quand même un lieu pas mal. Hein. Et puis si tu vois tout ce paysage avec une montagne avec le feu dessus, c'est inoubliable, quoi. Même si tu n'as pas fait de photo. Ils ont vu ça. Et il y a une chose étonnante. On va leur donner la loi. Et la loi est comme... ce qu'ils voient, c'est comme un feu. Et on va apprendre plus tard que le ministère de la loi, c'est le jugement. Et le feu, c'est une image du jugement. Et mais ils vont répéter... Dans ce chapitre, au verset 7, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et on arrive un peu plus loin dans cette histoire du veau d'or, chapitre 32. Moïse est monté sur la montagne, le temps passe, 40 jours, 40 nuits, et tout d'un coup, les fils d'Israël sont là et disent, on ne sait pas ce qu'il est devenu, allez, lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, à Aaron. Et Aaron ne sait pas trop où il en est aussi. Il ne sait pas trop où il en est, il va faire le veau d'or, il va l'appeler l'Éternel, c'est l'Éternel, le Dieu qui marche devant toi. Puis quand même, ils ont entendu, peu de temps avant, ils ont entendu ce que Dieu a dit. Tu ne te feras point d'image taillée. Ils ont la mémoire courte. Et puis, à ce moment-là, donc Moïse est sur la montagne et ce qu'on va suivre un peu, c'est comment le dialogue entre Moïse et l'Éternel, comment les choses vont se passer. Au verset 7 du chapitre 32, après que le peuple se soit assis pour manger, pour boire et pour jouer, faire une fête horrible à ce veau en fin de compte, l'Éternel dit à Moïse, va, verset 7, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur ai commandé. Ils se sont fait un veau de fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont sacrifié et ont dit, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, voici c'est un peuple de cou raide, et maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Est-ce que Dieu a changé d'avis? Pourquoi il dit à Moïse, laisse-moi faire? Est-ce qu'il a besoin de l'autorisation de Moïse? Mais si le peuple est arrêté, c'est détruit, pardon, mais où sera la descendance de Juda? Quelle sera l'histoire suivante? Où tout va s'arrêter? Et puis les descendants de Moïse ne seront pas mieux que les descendants de d'Abraham, de Jacob, etc. Il me semble que Dieu ouvre la porte à Moïse pour que Moïse lui parle. Et il me semble que ce qu'on va lire maintenant, dans cette implore, la manière dont Moïse implore l'Éternel, il y a des leçons pour moi, des leçons de prière, des leçons de communion, des leçons d'intelligence spirituelle. Verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Ah. C'est l'Éternel, son Dieu. Et je me pose la question, quand je prie mon Père, quand je prie le Seigneur, est-ce que c'est à lui que je parle? Est-ce qu'il est mon Père? Est-ce qu'il est mon Seigneur? Ce n'est pas neutre. Souvent on dit que la prière est puissante, je ne vais pas trop lancer là-dedans. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la prière qui est puissante, c'est Dieu qui répond à la prière. Bien sûr, l'apôtre Jacques nous dit que la prière du juste peut beaucoup parce que Dieu va agir. Mais cette relation-là, elle est dans une relation personnelle. Il prie son Dieu. Ce n'est pas des phrases qui montent en l'air vers personne. Ce n'est pas un soupir ou des paroles qui font du bien, je ne sais pas. Ce n'est pas une thérapie. Il prie son Dieu. Pourquoi, Éternel, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple? Il a dit à Moïse, vas-y, ton peuple là que tu as fait sortir. Lui, il répond, non, c'est ton peuple. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte. Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils disant, c'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les consumer de dessus la face de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Mais que vont dire les Égyptiens? Vous savez peut-être, quelle va être ta réputation? Quand le peuple d'Israël, plus tard, est arrivé de l'autre côté du Jourdain, À Jéricho, on savait ce qui s'était passé. Rahab va le rappeler. Cette histoire qui s'était passée plus de 40 ans avant, eh bien, elle faisait encore peur. On avait cet écho de Dieu. Mais alors maintenant, l'histoire, ça aurait été, mais il les a fait sortir et après, il les a détruits. Non, c'était pas ça. Moïse a à cœur la gloire de Dieu. Quand il va rappeler ceci dans le livre des Nombres, il va insister, enfin, dans le livre des Nombres, il ressort quelque chose, une manière de parler que de Moïse. On va lire, si vous voulez, dans Nombre 9, au verset 25. Nombre 9, 25. « Je me prosternais devant l'Éternel les 40 jours et les 40 nuits pendant lesquelles je me prosternais devant lui, car l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Je suppliais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté par ta grandeur. »
Excuse-moi, c'est Deutéronome.
J'ai dit quoi?
Non.
Merci. C'était pour voir si vous dormiez. Vous l'avez trouvé? Je relis.
Oui.
Je me prosternais devant l'Éternel les 40 jours et les 40 nuits pendant lesquelles je me prosternais devant lui, car l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Je suppliais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple et ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte à main forte. Souviens-toi de tes serviteurs d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ne regarde pas la dureté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché, de peur qu'on ne dise dans le pays d'où tu nous as fait sortir, parce que l'Éternel ne pouvait pas les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, parce qu'il les haïssait. Il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Or, ils sont ton peuple, ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. Ils sont ton peuple. Et sous-jacent, tu les as vus. Alors, dans la manière dont Moïse rappelle ce passage, la gloire de l'Éternel est vraiment soulignée. Et en même temps, il va prier d'une façon biblique. Il va rappeler les promesses. Souviens-toi, verset 13, je reviens à Exode 32, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as dit, je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé, et ils hériteront pour toujours. Il fait appel il est soucieux de la gloire de Dieu, et il fait appel aux promesses de Dieu, le Dieu qui ne peut mentir. Apprendre à prier avec dans nos cœurs d'abord la gloire de Dieu et le souvenir de ce qu'il a accompli, de ses promesses, de ce qu'il a promis à Christ en fin de compte. Alors Moïse va descendre de la montagne avec les tables dans sa main et il est souligné au verset 16, c'était l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les planches. Sur les tables. Il descend, le bruit de guerre, Josué qui dit, j'entends ce bruit, c'est un bruit de guerre dans le camp, Moïse reconnaît, dit non, il sait ce qu'il, Dieu lui a parlé, il sait ce qu'il est. Et puis il va détruire les tables, parce que avec ces tables de la loi rentrant dans le peuple, le jugement rentrait dans le peuple. Il va détruire le veau d'or et il va faire boire au peuple cela. Il va y avoir après l'intervention des Lévites. Et on va retourner au verset 30. L'Éternel, Moïse se retourne vers Dieu. Il arriva le lendemain comme Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Et maintenant, je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Et maintenant, si tu pardonnes leur péché, Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange ira devant toi, et le jour où je visiterai sur eux leurs péchés. » Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau qu'Aaron avait fait. Moïse va confesser le péché du peuple. Et il refuse ce que Dieu lui a dit. Quand il lui a dit, je vais les détruire et puis je vais faire de toi mon peuple. Et se rend solidaire du peuple. Il dit non, efface-moi de ton livre. Alors on peut comprendre ça de plusieurs manières. Peut-être que Moïse, dans un sens, disait, si tu me punis à leur place, eh bien, ça ira, je l'accepte. Mais ce n'était absolument pas possible. Un seul pouvait prendre notre péché. Et ensuite, d'un autre côté, en disant cela, il est aussi absolument solidaire avec le peuple. Il n'a jamais nié dans ce qu'il dit la culpabilité du peuple. Il n'a jamais essayé d'amoindrir la chose. Il a toujours accepté la condamnation de Dieu. On ne peut pas amoindrir la gravité du péché. Le peuple, ils ont déjà perdu 3000 hommes. Et puis il y aura encore une plaie qui va être dans le peuple. Et au chapitre 33, le dialogue entre l'Éternel et Moïse continue. L'Éternel dit à Moïse, « Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, dans le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. » Et j'enverrai un ange devant toi, je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, le Héthien, le Phérésien, le Hévien, le Jébusien dans un pays ruisselant de lait et de miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de cour roide, de peur que je te consume en chemin. Je ne monterai pas au milieu de toi. Oui, je vais accomplir la promesse que j'ai faite à Abraham, mais je ne vais pas avec toi. Et le peuple entend cela. Et il y a une réaction assez forte, puisque les fils d'Israël mènent deuil. Tout à l'heure, Moïse a confessé le péché. Là, le peuple mène deuil. Et puis Moïse va tendre une tente à l'extérieur, la tente de la rencontre. Je vous rappelle un petit détail, c'est que cette tente est provisoire. Le tabernacle n'est pas encore construit. Et dans un sens, le tabernacle sera une réponse de Dieu à ce qui se passe là. Donc, cette tente, elle est hors du camp, loin du camp. C'est le lieu où on peut se rencontrer avec Dieu et le peuple est dans un sens mis de côté. C'est l'endroit où Moïse va rencontrer Dieu, lui parler. Verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Et Josué reste dans la tente. Et le dialogue de cette tente va continuer depuis cette tente. Moïse dit à l'Éternel, regarde. Tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Il avait parlé d'un ange, mais qui est-il ? Tu ne m'as pas fait connaître celui. Tu as dit, je te connais par nom. Tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître. Je te prie ton chemin et je te connaîtrai afin que je trouve grâce à tes yeux. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre avenir, comment connaître la volonté de Dieu, Peut-être que là, il y a une clé, une réponse. Moïse parle, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous connaissions, que nous grandissions dans cette relation privée, personnelle avec Dieu. Et c'est dans cette relation-là que je vais pouvoir avancer dans son chemin. Ce n'est pas la vie chrétienne, notre vie n'est pas un éternel concours. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On peut se poser la question, je suis d'accord. Mais en fait, c'est connaître le Seigneur et de là, connaître sa pensée et de là, connaître son chemin. Et c'est un peu ce qu'il dit là. Je te connaîtrai afin que je trouve grâce à tes yeux et considère que cette nation est ton peuple. Dieu a toujours dit, toi, le peuple que tu as fait sortir. Il n'a pas dit ton peuple, mais il a toi et le peuple. Mais il n'a pas encore dit mon peuple. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel dit, ma face ira et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici, car à quoi connaîtront que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas à ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. Et vous voyez, je trouve que c'est tellement beau, c'est extrêmement dramatique, tu peux faire un beau film avec ça. Avec un suspense, je l'ai dit en français. Et puis pourquoi Dieu, je trouve dans un sens, pourquoi Dieu rentre dans ce dialogue-là? Mais il fait sortir des joyaux du cœur de Moïse. Il nous montre un exemple. Il se révèle aussi. Il révèle qu'il est juste. On ne peut pas accepter le péché comme cela. Et étant juste, eh bien, il n'a jamais accepté le péché, puisqu'il a donné son Fils pour prendre nos péchés. Puisque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, on l'a rappelé ce matin, pour payer le prix de notre culpabilité. Et là, Dieu est juste, et puis on va aller un peu plus loin. Vous savez, souvent, il y a des gens qui opposent le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Alors là, je les invite à relire la Bible, parce que si ce qu'ils racontent est vrai, mais la Bible aurait 3 pages ou 4, ça s'arrêterait après le fruit défendu, hein. Dieu aurait arrêté l'histoire tout de suite, alors que là, il promet déjà une descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Le projet de Dieu, c'est la gloire de son Fils. Ce matin, on a chanté un cantique que je ne suis pas très sûr de bien comprendre. Tu rêvais du jour où tu m'aimerais. Bon, bien sûr, la grâce qui nous est donnée, nous a été donnée avant la fondation du monde. Nous sommes élus en Christ avant la fondation du monde. Je ne suis pas très sûr que Dieu passait l'éternité passée à rêver à moi. Mais je suis sûr qu'il m'aime. Et que cette grâce a été révélée pleinement en Christ. Et que son projet va s'accomplir. Le projet de donner le pays à Israël était promis à Dieu, il allait s'accomplir malgré le peuple. Et quand on suit l'histoire de ce peuple, je ne sais pas pourquoi il l'a gardé jusqu'au bout, quoi. Et pourquoi il y a des promesses encore qui vont s'accomplir pour lui. Et pourquoi des promesses encore s'accomplissent pour moi. Et alors, l'Éternel dit à Moïse, verset 17, « Cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom. Je ferai cela aussi dont tu as parlé. » Alors Moïse dit, vous voyez, il prend de plus en plus confiance, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il est je ferai passer toute ma bonté devant toi. Je crierai le nom d'Éternel devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Vous avez remarqué ? Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Est-ce que vous vous souvenez que au moment du moment où Dieu rentre dans le temple, après le temple de Salomon, le cantique, c'est, il ne chante pas la gloire, il chante la bonté qui demeurera toujours. Parce qu'il me semble que la gloire de Dieu est absolument liée à son amour et à sa bonté. Quand il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce envers nous. Je ferai grâce à qui je fais grâce, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, il arrivera que ma gloire passera, je te mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. C'est, j'ose dire, incroyable. C'est tellement beau. Non, c'est Moïse, tu me diras. Ok. Mais c'est toi aussi. C'est un lieu près de moi. Dans un creux d'un rocher, et ma main sur le rocher. Tu as lu 1 Corinthiens 10 ? Il est question d'un rocher, et le rocher était le Christ. Et je crois qu'il faut être prudent dans les types, dans les images. On n'est pas obligé de rêver tout le temps. Mais là, il y a aussi des clés qui sont dans la Bible. Et j'imagine bien, enfin plus que ça, il est dans le creux du rocher. La main de l'Éternel est sur lui. Et Dieu va se révéler à lui. Quelle est ton histoire avec le Seigneur? Il y a certainement dans ta vie où il y aura, je ne suis pas mystique, hein, mais des jours, des moments, des périodes, des tempêtes, ça peut être à n'importe quel moment où on réalise une rencontre, quelque chose qui nous marque et qui nous fait peut-être avancer un peu plus, je ne sais pas, mais où quelque part, le Seigneur, notre Père, est plus connu, plus grand, bien que ce soit toujours partiel. Mais c'est lui qui le fait. Près de moi, je te mettrai dans le fente du rocher. Je mettrai la main sur toi, parce que pour se révéler, il faut que lui intervienne. Alors il y a la suite. Dieu reprend l'histoire, il dit, taille-toi deux pierres comme tu avais avant. On va recommencer, non, on ne va pas tout effacer. On va avancer. Et puis, on a, au chapitre 34, verset 5, l'Éternel descendit dans la nuée, se tint là, avec lui, et il cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité et la transgression et le péché, et qu'il ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent. Avec les conséquences du péché. Il y a quelques années, on était avec Geneviève au Congo. On va en vacances où on veut, hein. Et puis, on était à un endroit qui s'appelle Mujimai, chez les sœurs Clarisse. Alors, les sœurs Clarisse, elles ont deux, deux fonctions, l'adoration et l'hospitalité. Quand vous avez fait du tourisme en brousse, c'est assez sympa d'être chez les sœurs Clarisse, même si, comme elles n'ont pas l'électricité, il n'y a pas aussi la climatisation. Mais enfin, vous pouvez manger sans avoir crainte d'être malade. Et puis, elle nous accueillait très bien. Et puis là, on partageait, il y a une maison à part. Il y a un détail quand même. La maison où on dort, elle est près de l'église où ils rentrent le matin à 5h et on les entend chanter à 5h ou 4h du mat. Bon, c'est bien, c'est sympa, mais c'est tout. Et donc, avec nous, il y avait une religieuse habillée comme toi, mais pas moi, et 1m50 quelque chose, et sa connaissance des choses, enfin, elle était prof de latin, de grec et d'hébreu au grand séminaire. Et sa connaissance était inversement proportionnelle à sa taille. On a passé deux, trois soirées absolument sympathiques. Et on ne parlait pas que de la pluie du beau temps. À un moment donné, elle nous a un peu parlé du mot hébreu qui est traduit par la miséricorde. Et elle aimait bien cette traduction. Parce que dans d'autres versions, il y a compassion, etc. Mais la miséricorde, je ne sais pas pourquoi. Enfin, toujours est-il, c'est qu'en hébreu, ce qu'elle nous a dit, moi je ne suis pas hébraïsant, hein, ce mot hébreu a la même racine que le mot qui parle de la matrice féminine. Si on fait du mal à tes gamins, qu'est-ce que ça te fait? Tu le sens où? Ok? Et pas toi. Nous, on ne réagit pas pareil, les hommes. On le sent là. Mais c'est extrême. Et quand il est question des entrailles de miséricorde de Dieu, en fait, c'est un pléonasme. Et notre Dieu, quand il parle qu'il est miséricordieux, il sait que notre situation sur la terre le touche. Comme une maman est touchée quand on fait mal à son enfant. Mais la miséricorde, c'est pas simplement être touché, c'est tu vas te lever pour aider ton gamin. D'accord ? Quand le bon samaritain est ému de compassion, quand le Seigneur va dire qui est le prochain de l'autre, c'est celui qui a usé de miséricorde. Mais quand il voit l'autre, le blessé, il descend, il est ému de compassion. Il va user de miséricorde, il va descendre pour s'occuper de lui. Et notre Dieu miséricordieux, plein de grâce, il est descendu pour s'occuper de nous. Ce n'est pas d'en haut qu'il nous a sauvés. Le Seigneur Jésus est venu près de nous. Il a pris notre place, de A à Z, et plus que Z. Et puis, grand en bonté et en vérité. Il y a un écho dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Verset 14. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. La grâce, la bonté et la vérité, c'est, il me semble, c'est l'écho de cette déclaration-là se retrouve dans Jean, chapitre 1er, dans le Seigneur Jésus. Et la parole de devint chair habita au milieu de nous. Il y en a qui disent, on peut traduire tabernacle. En français, ça veut dire dressa sa tente. Il est venu habiter au milieu de nous et Dieu va, à partir de ce moment-là, ne va pas être dans la tente loin de peuple, mais il va mettre la tente au milieu de son peuple pour marcher avec lui dans le désert. Alors, Oui, Dieu, ce moment-là, a répondu à Moïse et va accompagner son peuple. Puis, je vais terminer. Il arriva que, au chapitre 34, quand Moïse descend, verset 29, il arriva que lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les deux tables de témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Moïse a été changé, transformé par cette rencontre. Alors, tu vas encore me dire, c'est Moïse. Tu peux prendre la deuxième épître aux Corinthiens, s'il te plaît. Je t'embête ? Il paraît qu'il y en a qui n'aiment pas quand je fais ça. Et surtout celui à qui je parle. Ou celle, pardon. Donc, on n'a pas le problème. Hein. Alors, chapitre 3. Chapitre 3, bon, je ne vais pas tout faire lire au chapitre 3. Il est question de ce qu'on vient de voir. Il est question du ministère de la mort qui est gravé en lettres sur des pierres. Il a été introduit en gloire. C'est ce qu'on a vu. Le ministère de la mort. La loi, l'essentiel de la loi, c'est malheur à qui n'accomplit pas la loi. Hein. Et Moïse, à cause de cela, les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Gloire qui devait prendre fin. À plus forte raison, le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire ? Il est question d'un ministère de la condamnation, d'un ministère de la justice. On est dans le Nouveau Testament, qui n'a pas oublié l'Ancien Testament. Et on a la leçon de l'Ancien Testament illustrée par l'Esprit de Dieu pour voir comment on le vit aujourd'hui. Alors, je vais te demander de lire. Le verset 17 et 18. Quelle version as-tu ?
Seulement
1. Vas-y. Fort, hein ?
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Bon, tous les vieilles sœurs et les vieux frères qui ont passé toute une vie pieuse, enfin les autres croient qu'elle est pieuse, mais tu sais tous cela. T'as lu le texte ? Nous, tous. T'as lu ? Nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, c'est ça ? Nous tous. Ça ne concerne pas que Moïse. Et on est dans une autre phase. Alors ne te regarde pas dans la glace pour voir si tu as changé. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, est-ce que je ressemble un peu plus au Seigneur ? Non, sois occupé du Seigneur. Vis avec lui. Il paraît que les vieux couples, ils arrivent à se ressembler. Mais vivre avec le Seigneur, c'est une transformation intérieure. Nous tous, contemplant à face découverte la gloire de la face du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. C'est dans cette relation, dans cette proximité. Et l'exemple de Moïse qui parle avec Dieu. Il y a un autre passage, il est dit dans Nombre, qu'il entrait dans la présence de Dieu, il écoutait, et ensuite il parlait. Moïse qui passe du temps avec Dieu, malgré tout le travail qu'il avait à faire, c'est ça qui le transforme. C'est ça que nous sommes invités à vivre. Et j'aimerais encore continuer par un autre passage, toujours dans 2 Corinthiens. Toujours dans 2 Corinthiens, j'ai tourné la page, je n'aurais pas vu, chapitre 4. Verset 6. Bon, j'ai changé de lecteur. Hubert.
Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ.
Facile, hein? On arrive dans des passages où il y a beaucoup de lumière. La lumière est venue quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Oh ben, il y a eu une lumière avant, mais... et qui a illuminé nos cœurs. Mais le Dieu, le grand Dieu des cieux et de la terre, celui qui, dans un sens, dit qu'il vit l'éternité, dans l'éternité, celui-là, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, et c'est là, ce moment-là, il a relu dans mon cœur, et j'espère dans le cœur de chacun de nous. Ce n'est pas simplement une connaissance extérieure. Quand il est question de connaître le Seigneur, ce n'est pas connaître son nom, connaître ce qu'il est, etc. C'est une relation. On se connaît un peu, chacun, enfin, quelques-uns, pour moi. Mais on a besoin d'avoir plus de relations pour se connaître davantage. Et quand nous serons dans le ciel avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, notre connaissance du Seigneur, ce sera dans la relation. C'est quand on dit « nous comprendrons tout », je ne crois pas que ce soit vrai, parce qu'on ne sera jamais Dieu. Mais nous connaîtrons Dieu comme nous l'avons jamais connu, comme lui nous a connu, dans cette relation. Alors, le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, dans le ténèbre de ton cœur, il a fait luire sa lumière pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. C'est ça? Et cette gloire de Dieu, elle a brillé. Là, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Et on a vu le Seigneur Jésus. Le petit bébé, on pouvait le voir. Il a repris notre histoire. Et dans tout son cheminement, c'est la gloire de Dieu qui brille. Dans son cheminement, quand tu lis l'Évangile, dans sa manière de tendre la main à un lépreux qui n'a pas été touché depuis des années, qui passait dans la rue en disant « impur, impur !» Et tout d'un coup, si tu veux, tu peux me rendre honnête, je veux, sois net. Il ne l'a pas fait par une parole, il a touché. La gloire de Dieu brillait là. La gloire de Dieu a brillé quand il va dire à une pauvre veuve qui a perdu son seul enfant, « Ne pleure pas. » Alors bien sûr, il a rendu son fils. Mais dans le « Ne pleure pas. » Mais la gloire de Dieu a brillé aussi quand il est dit de lui que son visage était plus défait que tout soit d'un fils d'homme. Quand il a été sur la croix, quand il a pleuré avec Marie, la gloire de Dieu a brillé dans l'abaissement du Seigneur. Et la gloire de Dieu a brillé aussi dans les ténèbres de la croix. Parce qu'à ce moment-là, la question de notre péché a été réglée. Alors vous voyez, on parle de Moïse. C'est simplement des perspectives que j'ai essayé d'ouvrir. On part de Moïse, de cette histoire terriblement forte, de cette rencontre avec Dieu, de la manière dont Dieu répond, de la manière dont Dieu se révèle. Et puis on arrive dans le Nouveau Testament où la révélation en Christ, par Christ, Dieu fait homme, est pleine, complète. Et ce Jésus, nous allons le voir sa face. Et ce qui me réjouit, c'est que je n'avais pas rencontré un inconnu. Et j'espère que pour chacun de nous, ici, ce sera le cas.